Je vais donc vous parler d'innovation thérapeutique et de mucoviscidose. Je dois bien dire que la présentation du docteur Tefa avant était vraiment excellente et va me servir beaucoup dans ce que je vais vous présenter. La mucoviscidose, c'est sans doute actuellement le meilleur exemple de médecine personnalisée en pneumologie et je vais essayer de vous montrer ça. Je tiens tout de suite à dire que j'ai un conflit d'intérêt, une fois n'est pas coutume avec cette présentation. On a parlé de l'Ivacaftor, qui est un des médicaments dont je vais vous parler. C'est un médicament qui est commercialisé par une société qui s'appelle Vertex, et je suis consultant pour Vertex. Donc la mucoviscidose, je passe très très vite parce que l'orateur précédent en a parlé, c'est une maladie donc, génétique, autosomique récessive. On dit qu'il y a plus de 1800 mutations, en fait il y en a plus de 2000. En France, il y a un diagnostic néonatal systématique à la naissance, donc on sait que ça fait 1 sur 4300 naissances, ce qui représente en France de l'ordre de 6 à 7 000 patients. En Europe, 35 000 patients. Dans le monde, on estime 70 000 à 80 000 patients. Ce qui nous intéresse, c'est que cette maladie est causée par des mutations, comme vous l'avez entendu, du gène CFTR. CFTR, c'est une protéine, hein, ici, qui est ancrée dans la membrane cellulaire et qui est exprimée à la surface des principaux épithéliums de l'organisme, en particulier les glandes sudoripares, c'est à la base du test de la sueur dont on vous a déjà parlé, qui est le test principal diagnostique de la mucoviscidose, mais c'est surtout exprimé dans l'épithélium respiratoire, tant au niveau des sinus que des poumons, ce qui explique qu'on ait cette maladie sinusienne et pulmonaire. Maladie pulmonaire qui est particulièrement importante parce qu'on estime que 85 à 90% de la mortalité par mucoviscidose est liée à la maladie respiratoire. Et donc ce canal, qui est à la membrane cellulaire, il va servir au transport d'ions chlorure, mais également, maintenant on le sait, au transport d'ions bicarbonate. Hein, et ces éléments sont très importants pour réguler la clairance mucociliaire dans l'épithélium respiratoire. Quel est le traitement actuel de la mucoviscidose? On vous a dit que dans la mucoviscidose, la maladie était principalement digestive et pulmonaire, et on a un traitement qui est très efficace, on va le revoir, qui est un traitement symptomatique, en particulier de l'atteinte digestive, chez les patients qui sont insuffisants pancréatiques, où il y a une maldigestion des graisses, qui est responsable d'une dénutrition également. À ce moment-là, on donne des enzymes pancréatiques en remplacement, des vitamines liposolubles, des vitamines A, D, E et un petit peu plus rarement de la vitamine K. Et puis, c'est recommandé qu'avec ces enzymes pancréatiques, on puisse donner des régimes à haute teneur énergétique et protéiques, parce que c'est des patients qui ont une dépense énergétique qui est très importante et souvent une anorexie. Et préserver l'état nutritionnel, c'est un élément absolument majeur. Pour l'atteinte pulmonaire, on a un certain nombre de traitements symptomatiques. C'est des patients qui ont une dilatation des bronches, qui ont un mucus visqueux dans les bronches, comme l'indique le nom de cette maladie. Et donc la kinésithérapie respiratoire est très importante. Elle peut éventuellement s'aider de techniques additionnelles comme des inhalations de DNAs recombinantes, éventuellement des inhalations de sérum salé hypertonique, des bronchodilatateurs. Ce qui a beaucoup changé le pronostic de cette maladie, c'est les antibiotiques. Antibiotiques qu'on peut donner par voie orale, par voie intraveineuse, par voie nébulisée, et des antibiotiques en particulier pour Pseudomonas aeruginosa. Et on sait qu'on a chez beaucoup de patients atteints de mucoviscidose une infection chronique à Pseudomonas qu'il faut traiter de façon agressive, l'objectif étant pas nécessairement d'éradiquer la bactérie, ce qu'on n'arrive pas à faire au stade d'infection chronique, mais de préserver la fonction respiratoire. Et donc c'est les patients qui vont avoir des antibiothérapies prolongées et des cures d'antibiotiques IV récurrentes. Et puis au stade d'insuffisance respiratoire qui ne répond plus aux thérapeutiques, on a la possibilité de la transplantation pulmonaire. En France, ça représente à peu près une centaine de malades qui sont transplantés pulmonaires pour mucoviscidose par an. Ces traitements, comme ça a déjà été dit, ont permis un bond en avant dans le pronostic vital des patients atteints de mucoviscidose. Vous avez ici l'âge médian de survie. Dans les années 50, au moment où le diagnostic de mucoviscidose a été établi, vous voyez que la majorité des enfants mouraient dans la première année de vie. Progressivement, on a eu un certain nombre de thérapeutiques qui sont apparues. Les enzymes pancréatiques, ici, qui ont permis une amélioration considérable du pronostic. Après, on s'est aperçu qu'il fallait faire de la kinésithérapie respiratoire, qu'il fallait donner des antibiotiques, en particulier pour pseudomonas. Et vous voyez qu'on fait un bond et que dans les années 80, les patients atteints de mucoviscidose commencent à atteindre l'adolescence. Arrivent des centres spécialisés dans le traitement des patients atteints de mucoviscidose, qui sont des centres, en France on en a 45, qui sont des centres où il y a finalement une approche multidisciplinaire, il y a des gastro-entérologues, il y a des pneumologues, il y a des kinésithérapeutes, des infirmières spécialisées, tout un tas de choses, et ça a amélioré aussi considérablement les choses. 1989, on découvre le gène CFTR par génétique inverse, et puis dans les années 90, des traitements qui arrivent, la DNase recombinante, qui est donc une enzyme qui casse l'ADN qu'il y a dans les expectorations, cet ADN venant de polynucléaires neutrophiles morts au combat, si on peut dire, et ça fluidifie les sécrétions bronchiques, ça aide la kinésithérapie respiratoire. Puis arrivent ici les antibiotiques inhalés, en particulier la tobramycine inhalée, arrivent d'autres traitements, le sérum salé hypertonique, l'azithromycine et, de façon plus récente, l'ivacaftor. Et donc, vous voyez qu'avec toutes ces thérapeutiques, on arrive finalement avec un traitement qui est simplement symptomatique de la mucoviscidose à passer d'une maladie qui, dans les années 50, était quasi constamment mortelle avant l'âge de 1 an à une maladie pour laquelle on estime que la moitié d'une classe d'âge atteint 40 ans et peut-être même plus actuellement. Alors, tout ça, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a un certain nombre de choses qui ont poussé l'innovation thérapeutique, et parmi les structures qui ont poussé l'innovation thérapeutique, il y a aux États-Unis la Cystic Fibrosis Foundation, qui est l'association de patients atteints de mucoviscidose. Et cette Cystic Fibrosis Foundation, vous avez ici une référence de site Internet, hein, publie de façon permanente sur son site Internet une espèce de sommaire de l'ensemble des essais thérapeutiques en cours ou des développements thérapeutiques et des différentes molécules. Et donc on va voir qu'il y a un certain nombre de choses qu'on connaît. On a ici des molécules qui sont développées dans le cadre de l'atteinte nutritionnelle. C'est principalement des vitamines, des nouvelles enzymes pancréatiques. On a des anti-infectieux. Et vous voyez que la recherche sur les anti-infectieux actuellement est principalement sur de l'antibiothérapie nébulisée. Alors quand on arrive tout en haut ici, on est déjà au patient. Ici, on est en phase 3, en phase 2 et en essai préclinique avant. Mais quand vous regardez, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On a la tobramycine inhalée. On a le Keystone qui est de l'astréonamylisine inhalée. On a la tobramycine inhalée en poudre. Et on a aussi la colimycine qui n'est pas sur ce graphique parce qu'elle n'est pas beaucoup utilisée aux États-Unis. Et puis l'azithromycine à faible dose en comprimé qui est également déjà en pratique clinique quotidienne. On a des médicaments anti-inflammatoires, l'ibuprofène, mais qui pour tout un tas de raisons n'est pas beaucoup utilisé, et puis d'autres qui sont en cours de développement. Des médicaments pour le mucus, c'est le pulmosim, c'est la DNase recombinante. Et puis après, on a des médicaments pour restaurer la fluidité des sécrétions bronchiques, le sérum salé hypertonique, le mannitol ici, qui est en cours de développement, et puis arrivent ici des molécules spécifiques de modulation de CFTR, qui sont des traitements étiologiques de la maladie. Là, on va s'attaquer directement au dysfonctionnement de CFTR. Et c'est de ça que je vais vous parler maintenant. Si on reprend un petit peu les choses, une physiopathologie très simplifiée de la mucoviscidose, c'est vous avez des mutations du gène CFTR, vous avez une protéine qui est anormale, avec une fonction canale de cette protéine qui est anormale, et un transport ionique qui est anormal. Ça fait qu'on va passer d'une situation normale à une situation mucoviscidose avec des cils ici qui sont écrasés par un mucus très épais, des polynucléaires neutrophiles, de l'infection. Ça va conduire à une obstruction des voies aériennes par des bouchons de mucus, à une infection respiratoire, comme ça a été dit tout à l'heure, à une inflammation et progressivement à des dilatations des bronches, à une insuffisance respiratoire. Notre traitement actuel, c'est les traitements des conséquences, antibiotiques, anti-inflammatoires, éventuellement transplantation. Dans les traitements spécifiques, on a potentiellement la thérapie génique, restaurer un gène normal dans les cellules épithéliales respiratoires. On a les thérapies qui sont directement liées à CFTR, et puis on peut éventuellement avoir des thérapies un petit peu alternatives, dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui servent à, assurer un transport ionique normal par des voies alternées par rapport à celles de CFTR. Commençons par la thérapie génique. Thérapie génique, ça veut dire que vous avez l'ADN, qui est votre médicament, et que vous allez essayer de l'envoyer dans le noyau d'une cellule épithéliale respiratoire, de façon à ce qu'il puisse y avoir une synthèse protéique d'un CFTR normal. C'est extrêmement complexe parce qu'il y a tout un tas de barrières. Il y a des barrières à l'extérieur. Si vous donnez une molécule par voie respiratoire, il y a le mucus qui va l'empêcher d'atteindre les cellules épithéliales. Il y a des barrières de la membrane cellulaire, de la membrane nucléaire. Donc c'est extrêmement complexe. Depuis 1989, où le gène a été identifié, il y a une quarantaine d'études qui ont été publiées avec différents vecteurs pour emmener ce petit brin d'ADN à l'intérieur de la cellule. Il y avait des vecteurs viraux, des vecteurs lipidiques. La plupart du temps, c'était administré soit par voie nasale, soit par voie directement pulmonaire. Globalement, pas de problème de tolérance, mais des niveaux d'expression de gènes qui sont faibles, une expression qui diminue rapidement avec le temps. Et finalement, pour l'instant, on n'est nulle part avec la thérapie génique, sauf peut-être avec un essai de phase 2 qui a été réalisé en Angleterre en 2012. C'est un essai avec 130 patients sur un an où ils ont une nébulisation par mois, soit d'un vecteur lipidique avec le gène CFTR normal, soit d'un placebo. Les résultats auraient dû être présentés au mois de novembre l'année dernière. Je pense qu'ils seront présentés la semaine prochaine au meeting de la Société européenne de mucoviscidose. À l'exception peut-être de cette étude, pour l'instant, on n'est nulle part avec la thérapie génique. Deuxième voie, la voie de modification de CFTR. Et c'est là qu'on arrive clairement dans les thérapeutiques ciblées. Je vous rappelle que notre conception actuelle de la médecine, ça reste pour une maladie donnée, vous donnez le même médicament. On sait qu'en moyenne, on a un effet positif, mais qu'il y a certains patients qui n'ont pas d'effet du tout et qu'il y a même certains patients qui vont avoir une absence de bénéfice du fait des effets secondaires du médicament. La médecine personnalisée, c'est un petit peu différent. De ce groupe hétérogène initial de patients, on va essayer de développer des biomarqueurs pour le diagnostic, de façon à ce que les gens aient des traitements différents et que l'effet soit positif pour tout le monde. C'est ce qui a été synthétisé par cet aphorisme anglo-saxon « Right drug, right patient, right moment ». Alors, dans la mucoviscidose, on a la chance. Il y a des gens qui, juste après que le gène CFTR a été découvert en 89, à partir de 93, on voit apparaître cette classification des mutations de CFTR. Mon prédécesseur a très bien montré tout ça. Cette classification, elle peut être en 5 ou en 6 stades, parce que le 6e n'est pas très fréquent, en fait. De quoi il s'agit ? Ça, c'est une cellule épithéliale. Dans une cellule épithéliale normale, vous avez CFTR ici, à la membrane. Vous pouvez avoir des mutations de classe 1, où il n'y a pas de CFTR du tout qui est produit, des mutations de classe 2, où CFTR est produit, mais il est rapidement dégradé ici, dans le réticulum endoplasmique, des mutations de classe 3, où CFTR monte à la membrane, mais il n'est pas fonctionnel, des mutations de classe 4, où CFTR est à la membrane, il est fonctionnel, mais pas beaucoup, et des mutations de classe 5, où CFTR monte à la membrane, mais il n'y a pas assez de CFTR. Les mutations de classe 1 et 2 vont avoir une diminution de la quantité de CFTR, de classe 3 et 4, une diminution de la fonction de CFTR, et classe 5, c'est aussi une diminution de quantité. Mais la quantité, c'est une chose, l'activité, c'en est une autre. En fait, dans les classes 1, 2, 3, on a une activité très, très altérée de CFTR, et dans les classes 4 et 5, on a une activité qui est moins altérée, ce qui explique, ce qui a été montré juste avant, que c'est ces classes 4 et 5 qu'on trouve de façon assez fréquente chez les gens qui ont des diagnostics plus tardifs de mucoviscidose dans des formes qui sont à révélation retardée. Et on a une espèce d'équation qui dit que l'activité de CFTR, c'est le nombre de CFTR ici à la membrane cellulaire qu'on multiplie par la probabilité d'ouverture du canal, et ici par exemple en classe 3, le canal ne s'ouvre pas, et ensuite par les propriétés juste de transport d'ions de ce canal, ce qu'on appelle la conductance. Et donc, quand on est ici, on est sur la quantité, là on est sur la fonction de CFTR. C'est important d'avoir cette distinction parce que ce n'est pas les mêmes traitements. Quand on a un CFTR qui est un petit peu fonctionnel, on peut potentialiser cette fonction par ce qu'on appelle des potentiateurs. Quand on n'a pas assez de CFTR, il faut pouvoir en faire plus. Ça veut dire corriger un CFTR défectueux ou éventuellement, pour certaines mutations, bypasser les codons stop, on va y revenir. Premier exemple de ces thérapeutiques, la mutation de classe 3, G551D. Qu'est-ce que ça représente dans le cadre de la mucoviscidose? Malheureusement, pas grand-chose. 3-4% des patients dans le monde. En Europe, c'est 1%. En France, c'est moins de 2%. Vous voyez qu'il y a un petit foyer ici en Irlande avec 7 ou 8%. Si vous allez dans la ville de Cork, en Irlande, ils ont 20% de leurs patients qui ont cette mutation-là. Et il y a donc ce médicament qui est l'ivacaftor ou Calideco, qui a été développé. C'est un médicament qui va s'accrocher directement au CFTR G551D dans le domaine membranaire et restaurer sa fonction. Donc il y a eu des essais cliniques qui ont été faits. Ici, c'est un essai clinique qui a été publié en 2011 dans le New England Journal of Medicine et qui a changé considérablement la vision qu'on avait de la mucoviscidose. De quoi il s'agit? C'est une étude en groupe parallèle sur un an où vous allez avoir un groupe qui prend de l'ivacaftor, 150 mg deux fois par jour. C'est simplement un comprimé qu'on prend avec un repas gras le matin et le soir, ou un placebo. Et puis, ensuite, il y a une étude d'extension. Inclusion, adulte plus de 12 ans, ou en tout cas adolescent ou adulte plus de 12 ans, VEMS de 40 à 90%, et au moins une mutation G551D. Ensuite, il y a des études chez l'enfant qui ont été faites. Qu'est-ce qu'on montre? Eh bien, vous avez ici des résultats de tests de la sueur chez des patients qui prennent un placebo ou chez des patients ici qui prennent de l'ivacaftor. À l'entrée dans l'étude, vous avez le 60 ici qui est la limite diagnostique de mucoviscidose. À l'entrée dans l'étude, tout le monde est à 100. Le placebo, ça ne bouge pas du tout. Au bout de 15 jours de traitement, vous avez perdu 40 points de chlorure dans la sueur. Ça veut dire que ce traitement est capable, in vivo chez l'homme, de restaurer des transports ioniques, au moins en partie, puisqu'on est quand même au-dessus des 30 qui sont la valeur normale. Est-ce que ça s'accompagne d'un bénéfice? Vous voyez ici la fonction respiratoire avec le VEMS en valeur absolue. C'est un gain en valeur absolue prédite. Ça veut dire qu'en 15 jours, quand on prend de l'ivacaftor, on gagne à peu près 10% de VEMS en moyenne. Et sur ces 10% de VEMS, on va avoir une stabilité pendant les 1 an de l'étude. On a maintenant des données sur 3 ans, où on sait qu'on va avoir une stabilité sur 3 ans. Et pendant ce temps-là, le groupe placebo ici était à peu près stable, avait décliné un petit peu, mais plus le temps passe, plus la fonction respiratoire diminue dans le groupe placebo, et plus il y a une différence importante entre le groupe placebo et le groupe actif. Voilà les différences de tests de la sueur. Ici, dans le groupe placebo, au fil du temps, vous voyez que ça ne bouge pas beaucoup. Dans le groupe ivacaftor, ça a diminué considérablement, avec néanmoins des variations selon les patients. Il y en a qui diminuent ici de 70 milliéquivalents, d'autres qui diminuent simplement de 10. Est-ce que ça fait d'autres choses pour les malades? Oui, ça fait d'autres choses. Ça diminue aussi les exacerbations de mucoviscidose, la nécessité d'antibiothérapie, en particulier d'antibiothérapie intraveineuse. Ici, c'est le risque de première exacerbation qui est moins important dans le groupe Ivacaftor que dans le groupe placebo. Ça a conduit à une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe et à la prescription quotidienne. C'est un médicament qui est disponible en pharmacie en France pour les patients de plus de 6 ans qui ont au moins une mutation G551D. On a maintenant des études post-marketing qui confirment totalement ces résultats. C'est un petit peu petit ici, mais ici, c'est les hospitalisations avant l'arrivée de l'ivacaftor. Après l'arrivée de l'ivacaftor, ça diminue. Et la quantité de pseudomonas aeruginosa, enfin de patients ayant du pseudomonas aeruginosa, qui diminue aussi dans ces études-là. Néanmoins, ce n'est pas valable forcément pour tout le monde. Quand vous regardez, même avec une mutation G551D, vous avez ici les variations de VEMS au cours de l'étude. Vous voyez que sous placebo et sous ivacaftor, c'est une courbe de Gauss, qu'elle est décalée vers la droite, vers donc un bénéfice pour l'ivacaftor, mais qu'il y a des patients qui sont sous ivacaftor qui n'ont pas beaucoup de bénéfices sur la fonction respiratoire. Une des raisons de ça, c'est que l'ivacaftor restaure à peu près 35 à 40% de l'activité de CFTR, ce qui n'est peut-être pas tout à fait suffisant. On était donc ici, et vous voyez qu'en classe 3, il y a G551D, mais il y a aussi tout un tas d'autres mutations. Ces autres mutations, elles ont été étudiées. Il y a moins de malades qui ont ce type de mutation, donc faire des études en groupe parallèle, c'est compliqué. Donc là, ça a été des études en crossover, où chaque malade a pris le placebo, puis l'ivacaftor, ou l'ivacaftor, puis le placebo. Et sur ces études, on a trouvé des résultats qui sont exactement identiques à ceux qu'on avait avec G551D, avec ici une amélioration de la concentration de chlorure dans la sueur et ici une amélioration de la fonction respiratoire avec un différentiel entre les deux groupes qui reste identique. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait tout un tas de mutations de classe 3 et que pour chaque mutation, on peut regarder les modifications de VEMS, on peut regarder les modifications de tests de la sueur, on peut regarder aussi les modifications d'indices de masse corporelle parce qu'habituellement, les patients prennent du poids sous ivacaftor, ils prennent 2 ou 3 kilos. Et on peut voir qu'il y a une efficacité pour toutes les mutations, sauf pour celle-ci, qui est G970R. Pour l'instant, on ne sait pas bien pourquoi, mais ça a des conséquences, parce que les conséquences, c'est que les indications de l'ivacaftor se sont étendues à partir de 2014 à toutes ces mutations de classe 3 que vous avez ici, sauf celle-là, pour laquelle ça a pas, le produit n'a pas été retenu ni par la FDA, ni par l'Agence européenne du médicament. On a maintenant des indications aussi chez l'enfant depuis mars 2015. Si on regarde ce que ça représente en nombre de patients, ça c'est la première mutation, ça c'est la deuxième mutation en classe dans le registre européen de mucoviscidose. Vous avez ici des nombres de patients et ce que vous voyez, c'est que par exemple, c'est en classe 2 qu'on a le plus de patients parce que c'est la mutation Delta F508. En termes de traitement, voilà ce que ça représente. Le Calideco, vous voyez que ça représente un nombre encore assez faible de patients qui sont accessibles à ces traitements. Les challenges de cette médecine personnalisée, c'est comment on fait pour montrer une efficacité chez des patients qui ont des génotypes rares. Est-ce que c'est indispensable d'avoir un génotype ou est-ce qu'on peut s'aider de d'autres tests? Est-ce qu'on peut identifier une maladie pulmonaire précoce pour donner ça dès l'enfance, en particulier en cas de dépistage néonatal systématique? On était ici, on passe rapidement ici sur les classes 1. Les classes 1, c'est les codons stop. Stop, ça veut dire qu'il n'y a pas de protéine qui est synthétisée. Comment ça se passe? Quand vous avez un codon stop, la protéine s'arrête. Au lieu qu'il y ait une protéine normale, ça s'arrête. Et on a des molécules qui sont capables de passer par-dessus ce signal d'arrêt de traduction de la protéine pour essayer de synthétiser une molécule normale. Cette molécule, ça s'appelle en particulier la tallurène. La tallurène a été étudiée en études... ça s'appelle la tallurène. Juste rapidement, ces mutations de classe 1, c'est 10%, 10 à 15% des mutations. La tallurène a été étudiée, pareil, sur une étude de 1 an contre placebo chez des patients qui avaient au moins une mutation stop. Résultat extrêmement décevant. La fonction respiratoire continue à baisser, elle reste un petit peu supérieure à celle du groupe placebo. Il y a des effets en sous-groupe qui suggèrent qu'il ne faut pas totalement abandonner cette molécule, mais résultat très, très, très décevant. Pour l'instant, on n'y est pas encore pour les codons stop. Mais peut-être le plus intéressant, c'est les classes 2, Delta F508, parce que Delta F508, il y a 70% des patients mucaux qui ont une mutation Delta F508, à peu près 50% qui sont homozygotes Delta F508, et vous voyez qu'en Europe et en France, c'est à peu près 80% des malades qui ont au moins une mutation Delta F508. Le problème, c'est que quand on donne de l'ivacaftor à ces malades-là, et qu'on regarde le VEMS, il se passe globalement rien, ou en tout cas très peu de choses. Il y a une deuxième molécule qui a été développée, qui s'appelle le lumacaftor, et qu'on peut associer à l'ivacaftor. C'est des résultats qui sont tout récents, puisque l'étude a été publiée dans le New England Journal of Medicine le 17 mai de cette année, et où on comparait un placebo à une association ivacaftor plus luvacaftor à deux doses différentes sur une étude de 24 semaines avec une phase d'extension. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici la fonction respiratoire, le VEMS sur 24 semaines chez des patients sous placebo ou sous traitement actif avec les deux doses. Vous voyez qu'il y a un gain de fonction respiratoire, que ce gain n'est pas très important. Ici, c'est marqué 2%. Quand on corrige un petit peu les choses, on est autour de 3-4%. Ce n'est pas très important, mais attention, c'est des données sur 24 semaines. 24 semaines, c'est très très court. C'est déjà pas mal d'avoir ce gain-là. Surtout que dans cette étude, le groupe placebo est stable. Or, on sait que sur la durée, il va décliner. Donc, la différence va être plus importante. Par ailleurs, il y a une réduction des exacerbations de mucoviscidose. Ici, c'est le temps jusqu'à la prochaine exacerbation. Et des exacerbations nécessitant en particulier une antibiothérapie IV, moins 50%, avec une diminution des hospitalisations aussi. La molécule combinée est en cours d'approbation par la FDA. Les premiers résultats ont l'air très positifs et elle devrait avoir une approbation de la FDA en juillet 2015. Donc, la médecine personnalisée chez les patients mucaux, c'est déjà disponible. Bien sûr, ça ne se conçoit qu'en complément du traitement habituel de la mucoviscidose. Pour l'instant, on n'en est pas encore à arrêter les thérapeutiques qui ont permis de sauver les malades et d'améliorer leur espérance de vie. Quels sont les challenges pour le futur ? Les challenges, c'est la thérapie précoce après dépistage néonatal pour prévenir la maladie, éviter qu'elle apparaisse, puisque à la naissance, les poumons sont relativement normaux. C'est aussi améliorer nos possibilités de prédire la progression de la maladie pour savoir s'il y a des patients qu'on peut traiter et d'autres qu'on peut ne pas traiter. Et puis, peut-être à un moment donné, quand les traitements seront encore plus développés et encore plus efficaces qu'ils ne sont actuellement, ça sera de pouvoir diminuer la pression thérapeutique de façon à diminuer aussi les coûts et les effets secondaires des médicaments. Je vous remercie de votre attention.